RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Avec le coach d'RMC Running, et oui, notre bricoleur nageur, Yoann Durand qui est là. La salut Yoann.
Salut à tous.
Il est monté à Paris celui-là en plus.
Bah ouais, tu me manquais. Je voulais voir, je voulais surveiller tes entraînements, voir t'as affûté ou pas, voir si t'as les muscles saillants, tout s'y semble prêt.
Ça y est, on rentre dans la période de la préparation que je déteste. Les deux dernières semaines.
Les deux dernières semaines où faut ralentir.
Ouais, et quand ton obsession c'est de te dire je ne veux pas tomber malade.
Ouais.
Et ouais.
Et où tu vas mesurer chaque pas, chaque fois que tu vas faire un pas, tu vas te dire est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce que je sors ? Comment je m'habille ?
Non, mais c'est pire. C'est ma fille tousse, ça m'agace.
Ah ouais.
Tu vois, je me dis, faut pas qu'elle tousse vers moi.
Et ouais. Huitième vague de Covid qui arrive, là, il va remettre les masques.
Arrête. Bref. Fidèle d'RMC Running, vous nous rejoignez évidemment sur Strava, sur Instagram, sur Twitter. Vous abonnez à toutes les plateformes de téléchargement. Les chiffres montent, on vous en remercie. Et on est là, évidemment, pour vous accompagner tout au long de l'année. Une thématique qui va parler à tout le monde cette semaine, Yoann. Un passage obligatoire lorsqu'on pratique la course à pied. C'est la gestion des blessures. Tu vas savoir de quoi tu parles. Ça te concerne directement. Comment identifier une blessure, comment bien la soigner et comment faire pour ne pas rechuter. Deux invités pour en parler avec nous. Mickaël Gras, qui a été 10e du marathon au championnat d'Europe, qui était à tes côtés.
C'est ça, mon collègue.
Qui va nous rejoindre. Et puis Florence Morisseau, elle est déjà venue dans des épisodes précédents. Elle est kiné, elle est responsable de la clinique du coureur et elle participe au podcast La Bande à D+ avec Nicolas Fréré. On est ravis de les accueillir tous les deux. On vous précise que l'opération Niskan continue, on prendra des nouvelles d'Alix, membre de la Dream Team RMC Running, et puis un nouveau bon plan d'ossard qui est exceptionnel cette semaine.
Ah.
On lance l'opération 20 km de Paris.
Ah.
Cette semaine, on fait gagner 20 dossards. Très belle course parisienne, c'est le 9 octobre prochain. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
Du coup, plusieurs pointures nationales se sont tournées vers le semi-marathon tuliste.
Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Et parmi eux, Mickaël et Damien Gras.
Non mais c'est dingue ! Ils sont pour très cracher !
Victoire aux France Espoir.
Tu étais mon seul espoir.
Je voulais renouveler le titre pour ma dernière année.
Parmi les concurrents, des jumeaux de 22 ans qui ont découvert le désert à cette occasion.
T'es pas sérieux ?
Mickaël et Damien, jumeaux fusionnels depuis 22 ans, que seule l'immensité du désert parvient à séparer. Mickaël prend à peine le temps de faire son plein d'essence, comme il dit.
Ça va ? On se prend pour Schumacher ? Bande organisée,
personne peut nous. Excellent travail de Geoffrey Charpie, bravo. Voilà, ça vous plante le décor. Mickaël Gras, membre de l'équipe de France de marathon, 10e des championnats d'Europe, et frère jumeau de Damien, parce qu'ils sont indissociables évidemment. Et avec nous en direct, salut Mickaël.
Salut, bonjour, bonjour Benoît, bonjour Yoann, bonjour à tout le monde.
Eh Mickaël, un lancement.
Merci pour l'invitation, c'est sympa.
Ah non, mais attends, on est ravis de t'accueillir. Un lancement fait par Claire Chazal, franchement, ça c'est une consécration.
Il est passé au journal de 20h.
Ouais, bravo.
Comme quoi, ça a servi à quelque chose de faire ce marathon des sables. Ça nous a donné une belle visibilité au journal du samedi de 13h avec Claire Chazal.
Ah bah, tu te rends compte, bien sûr.
C'est classe.
Eh oui, quel hommage. On accueille également Florence Morisseau, qu'on est ravi d'accueillir, qui est déjà venue pendant l'été nous parler évidemment de course à pied. Florence, qui, je le disais, est kiné, responsable de la clinique du coureur. Bonjour Florence.
Bonjour, bonjour Benoît, bonjour Yoann, bonjour Mickaël.
Comment
ravie
ça
d'être
va
là, merci beaucoup.
Ça va ?
Ça va bien.
Bon.
Ouais.
On rappelle l'excellent podcast dont tu fais partie, La Bande à D+, avec Nicolas Fréré. D'ailleurs, un très bon épisode qui est sorti sur l'UTMB, vous étiez sur place. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Alors, vous vous connaissez, évidemment, Yoann et Mickaël.
Malheureusement.
Vous étiez sous le même maillot, là, au mois d'août, ça c'est pas passé de la même façon pour tous les deux. Il y a eu l'abandon de Yoann qu'on a pu débriefer la semaine d'après. En revanche, et tu me disais toi, Yoann, c'était la belle surprise tricolore. Il nous a quand même sorti un record perso en 2h10, quoi. Costaud.
Ouais, non, Mickaël, ouais, belle surprise. Hein. Belle surprise en avril à Paris avec explosion de son record perso. Et 4 mois après, il remet ça avec une belle 10e place. Voilà, ça a vraiment été la surprise de l'équipe de France. Et je pense qu'il est arrivé, je crois, avec le 30e temps d'engagement et il fait 10e. Donc, comme quoi, le jour J d'un marathon. Et encore, 10e, il le racontera certainement, mais peut-être qu'il aurait. Enfin, il ne faut pas qu'il ait de regrets, mais certainement qu'il aurait pu encore gratter quelques places. Donc, c'est bien. Et puis, ça lui ouvre des potentialités pour les JO, comme pour nous tous.
Mmh.
Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on va parler du sujet des blessures, parce que lui, comme moi, on a quand même eu une carrière là, ces dernières années un peu compliquée avec, avec les blessures.
Ouais. Là, on a deux spécialistes
des
blessures.
Exactement.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur des frères Gras? Et bien bah, meilleur que Damien?
Non, non, bah Damien, pareil, est blessé malheureusement. Mais ce qui est dingue, c'est que quand l'un perf, l'autre perf. Enfin, ah. L'autre perf pas et inversement.
Chacun leur période. Malheureusement, ouais. On a du mal.
D'accord.
On a du mal à se coordonner et là, ça commence. On dirait qu'on voit le bout du tunnel et que on arrive à repasser des séances ensemble, à programmer les mêmes objectifs. Donc, je pense que les prochaines compétitions, vous allez pouvoir nous retrouver tous les deux côte à côte.
Mais c'est tout l'intérêt.
Et ça va faire vraiment plaisir.
C'est ce qui rend votre histoire si particulière et si intéressante, c'est que il y a aucune rivalité entre les deux frères. C'est-à-dire qu'il y a une entraide totale. Non, mais il pourrait.
Ouais.
Des jumeaux qui pratiquent le même sport à très haut niveau, tu pourrais avoir une certaine rivalité.
Vous ne nous voyez pas à l'entraînement. Hein.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes ravis de voir les performances de l'autre, alors que, par exemple, Objectif 2024, il n'y a que trois dossards qui sont disponibles. Et tu vois, il y a du monde. Donc, difficile d'imaginer deux frères sur un objectif comme celui-là. Mickaël, pour mieux te connaître, on lance le CV de coureur.
RMC. Le CV de coureur.
Alors tu as quel âge, Mickaël?
Je viens d'avoir 31 ans hier.
Ah, bah bon anniversaire en retard. Tu lui as envoyé un message ou pas, Johan? Oh, tu savais pas. Et du coup, c'était l'anniversaire de ton frère, si je réfléchis bien.
Eh oui.
On partage tout.
Ah ouais. Et bah bon anniversaire à vous deux. On savait pas. Et puis j'espère que t'as
été gâté.
Merci
beaucoup.
Voilà. Et
oui.
Tu cours depuis quand alors, Mickaël?
Depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai fait du foot pendant 7 ans et après j'ai été repéré par un entraîneur d'athlétisme et il m'a conseillé d'essayer les crosses. J'ai rapidement aimé ça et vu que je gagnais la plupart des compétitions que je faisais au début, j'ai arrêté le foot et pour me consacrer entièrement à l'athlétisme.
Bon, tu cours combien de fois par semaine?
Je cours tous les jours et parfois deux fois par jour.
Ça représente en moyenne combien de kilomètres?
En prépa marathon, au cœur de la prépa marathon, ça monte jusqu'à 160 kilomètres, mais je ne suis pas parmi les marathoniens français celui qui borne le plus.
Ouais.
Je sais que ma limite, elle se trouve autour de 150-160 kilomètres, justement par rapport aux blessures, et moi je compense avec beaucoup de vélos à côté.
C'est plus méthode Durand que méthode Navarro. Voilà. Plus de qualité, moins de volume.
Voilà.
Ouais, je vous connais les mecs à force de vous suivre.
Et on sait qu'on est blessé, c'est pareil.
c'est ça.
Quand t'as la problématique de la blessure, tu pallies le manque de course par le vélo.
Ouais. Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier, Mickaël Gras?
Mon marathon de Paris, j'en suis très fier. En avril, pour la dernière édition du marathon de Paris, en avril 2022, un record en 2h10.55. Donc mon ancien chrono, il datait de 2017 à Francfort. Je descends mon chrono de 6 minutes, donc c'est quand même assez exceptionnel et je suis fier de ma course et également de ma préparation qui s'est super bien passée avec Jean-François Pontier. Donc c'était vraiment passer la ligne d'arrivée avec un chrono comme ça les sensations que j'ai eues sur la course, c'était super.
Ah ouais, quand ça se passe bien, quel bonheur, hein, un marathon comme ça. Quelle sera la prochaine course disputée alors, Mickaël?
Ça sera les 20 km de Paris.
Ah, tu y seras! Très bien!
Le 9 octobre, j'y serai. Ouais.
Est-ce qu'on peut te mettre un drapeau dans le dos et est-ce que tu peux faire lièvre? Bon, là, faut s'accrocher.
sera lièvre en une heure ou moins.
Ah ouais, ça pourra y aller, faut passer sous l'heure. Donc, forcément, c'est un objectif irréalisable. Et juste pour terminer, ta séance préférée, Mickaël?
J'aime bien les séances SP marathon avec des allures spécifiques sur des sorties longues.
Et voilà.
Peu importe le marathon, c'est toujours partir sur une sortie longue, c'est ce qui me fait kiffer. Ouais.
Et voilà, il a coché la case du bingo. Et voilà, le marathonien aime la sortie longue. Et voilà, on est donc avec Mickaël. Et cette semaine, on est également avec Florence Morisseau. Reprenons l'histoire de Mickaël avant de passer à la thématique. Donc je le disais, c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, vous étiez baigné dans le sport avec ton frère, donc ton frère jumeau Damien. Vous étiez joueur de foot, comme Johan Durand d'ailleurs, et repéré sur les terrains pour des capacités physiques hors normes. Un coach qui vous repère, qui vous dit vous devriez essayer l'athlétisme, et là ça a matché tout de suite, hein. C'est ça l'histoire, Mickaël.
Ouais, on a tout de suite adoré ce sport, et puis quand tout de suite tu te mets dans un sport, que tu sens que c'est fait pour toi, que tu gagnes tout, t'as envie d'aller plus loin et de voir jusqu'où t'es capable d'aller. Et puis on avait dès le début des rêves de championnats internationaux, de grandes compétitions, donc plein de projets.
Vous êtes frères jumeaux, vous avez d'énormes capacités tous les deux. Est-ce que vous avez exactement les mêmes qualités ou est-ce que vous avez tout de même deux profils différents?
Globalement, on a la même morphologie, donc... Non, on a à peu près les mêmes capacités. Damien a toujours été un peu plus fort sur le court. À l'époque où on faisait des 800, 1500 et 3000 sur piste, il était mieux sur le 800, j'étais mieux sur le 3000, mais ça se jouait à pas grand-chose. D'ailleurs, il a toujours un meilleur record que moi sur le 800. Et je pense que c'est un des seuls records qu'il a par rapport à moi.
Ah, ouais. Ah, quand même, il y a une petite rivalité. Tu vois, je disais en fait qu'il y a de l'entraide, mais...
Oui, bah, il y a forcément...
Ouais, c'est ça. Est-ce que toi qui vois ça de l'extérieur, parce que tu les connais, vous avez partagé le maillot de l'équipe de France, ce côté frère jumeau, cette fusion entre les deux, tu l'as ressenti toi quand tu les
as
vus?
Bah oui, déjà ça a été très compliqué de les différencier. Je vais être honnête, il m'a fallu pas mal d'années pour essayer de.
Il y a pas un tatouage
qui... Non, bah non, ah, non, ça serait trop facile.
Ah ouais, ouais.
Ah, crois-moi, il s'habille pas presque pareil, mais c'est pas loin. C'est... Ah, ouais.
Même équipe
vraiment
manquée.
Les jumeaux. Ouais, même équipe manquée, tout pareil, tout pareil, tout pareil. Donc compliqué de les différencier. Mais non, après ouais, comme il le disait, ils ont les mêmes qualités de long, ils ont la même morphologie, ils ont presque un petit peu la même foulée, donc c'est vrai que c'est difficile de les différencier, mais après ouais, c'est une force pour eux hein, de pouvoir s'entraîner comme ça à deux et de se soutenir. Enfin, certainement Damien n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais je pense que là, la période qu'il a vécue avec une opération du tendon d'Achille qui le tient éloigné là du haut niveau depuis 5-6 mois, bah, de voir son frère parfait doit lui donner envie de revenir pour que ça soit à son tour, et Michael doit être là pour lui, donc ouais, c'est une force hein.
Est-ce qu'il est arrivé dans votre jeunesse, Michael, que la comparaison soit lourde à porter, quoi, que vous soyez systématiquement opposés et que ce soit un peu embêtant entre guillemets?
Non, on a toujours vécu ça comme une force d'être frères jumeaux, et ça nous a toujours poussé de l'avant, et il n'y a jamais eu de négatif par rapport à ça. C'était et puis on voit bien que, enfin, surtout dans les catégories jeunes, il y avait beaucoup de frères jumeaux qui perfaient. Pour en citer certains, il y avait les frères Pepio, les frères Adjam, qu'on a retrouvés assez souvent en sélection internationale. Et je pense que pour eux aussi, ça a été une grande force d'être à deux à l'entraînement et pouvoir se motiver mutuellement.
Vous avez peut-être un caractère différent, non? C'est peut-être ça qui...
Il y en a un qui est radin.
Ouais. Non, mais peut-être qu'il y en a un qui tire au flanc et l'autre qui est plus travailleur. Ou non, il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là non plus?
Ouais, ça c'est aux personnes qui nous côtoient de le dire. Après, nous c'est difficile de se juger soi-même, mais peut-être que Damien est plutôt aller un peu plus sociable que moi, on va dire. Il a plus de facilité à aller vers les autres, et puis moi je suis un peu quelqu'un de plus minutieux. Je suis plus dans mon élément sur les choses qui demandent de la précision.
Bon, vous l'avez compris, on est donc avec le sauvage des frères Gras cette semaine.
Exactement, voilà. La sociable des deux.
Voilà. Avant de passer à la thématique,
il y a toujours un leader hein, dans les couples de jumeaux.
Eh oui, bah dans tous les couples, dans tous les couples, c'est la vie. Voilà, il y a toujours un leader et voilà, un dominant, un dominé.
Ah ouais.
C'est l'histoire. dis-moi. Michael, l'autre singularité, c'est que vous avez poussé les études extrêmement loin, vous avez fait des études de médecine pendant longtemps. Est-ce que ça vous a, entre guillemets, aidé justement dans l'apprentissage de cette rigueur et de cette façon de travailler, de voir les choses, ou est-ce que tu penses que ça a pu vous freiner aussi parce que vous avez passé beaucoup de temps, que ce soit en train de réviser ou même dans les hôpitaux, parce que vous faites des études de médecine tous les deux. Donc comment tu vois ça, toi, avec du recul?
C'est très difficile à dire de savoir si le fait d'avoir fait une carrière en athlétisme exclusive sans ce travail à côté, de savoir si ça aurait pu nous amener à un meilleur niveau. C'est pas évident. Je pense que la médecine, le sérieux que demandent les études de médecine, l'investissement a été un plus aussi dans notre carrière sportive. Et puis inversement, le fait de s'entraîner, d'essayer d'atteindre le plus haut niveau, c'est des valeurs, c'est un état d'esprit dont on a pu servir pour nos études en médecine aussi.
Bah, on va faire intervenir.
Donc, difficile à dire, mais je pense que le travail nous limite un peu aussi au niveau de la récupération. On a pas mal de temps pour s'entraîner. Avant, on arrive à caler nos entraînements depuis le temps qu'on gère les deux de front. On sait s'organiser, mais le problème, c'est le manque de récupération. Passer 10 heures par jour à l'hôpital, c'est pas forcément l'idéal pour bien encaisser les séances.
J'ai même lu une anecdote comme quoi ça vous est arrivé en sortie de garde le soir à 10 heures du soir d'aller sur une piste fermée en nocturne et de s'envoyer des séries de 400 mètres. Parce que vous avez pas
fait la journée.
À la fois de motiver. Ça, c'est dingue.
Et oui, il y a certains stages qui sont plus durs que d'autres dans la médecine. Et moi, j'avais fait un stage en chirurgie viscérale. Et c'est vrai que pour avoir le temps de courir, ben, j'allais au travail en courant. Comme ça, j'étais sûr au moins le matin de pouvoir courir un peu. Et les journées, on sait quand elles commencent en chirurgie, mais on ne sait pas quand elles se terminent. Et ça m'est arrivé de rentrer chez moi en courant à 2h du matin après le bloc, ou des fois de ne pas rentrer du tout pendant 48 heures et de dormir à l'hôpital.
Ah ouais.
Et bah, donc, c'est pas parole... toujours évident de s'organiser.
Tiens, donnons la parole à Florence, qui est donc avec nous, Florence Morisseau, donc, qui est kiné et responsable de la clinique du coureur. Florence, question toute bête, mais est-ce que tu as déjà assuré le suivi comme ça de deux athlètes jumeaux ? Est-ce que ça t'est arrivé dans ta carrière ?
Non, j'avoue que ça m'est jamais arrivé parce que j'ai pas eu l'occasion. Après, ouais. Je crois que d'avoir des petits travers dans lesquels faut pas tomber non plus, hein, dans le sens où ça reste quand même deux individus avec des moments de vie et de physiologie qui peuvent leur être propres. Mais ça doit être quand même intéressant de voir quand on met en place quelque chose qui marche sur l'un, si ça peut éviter à l'autre de tomber dans certains écueils ou des choses comme ça. Ça doit être des mini-recherches, des micro-recherches à leur niveau qui peuvent être intéressants.
Oui, parce que ça reste deux athlètes et deux personnes évidemment singulières. Mais est-ce que ça veut dire, Michael, que si Damien a des douleurs au tendon d'Achille, toi, tu vas faire attention en te disant « bah, finalement, on a la même morphologie, ça peut m'arriver aussi. »
Eh ben, souvent, ça a été un critère pour moi pour d'alerte, en fait.
Ah oui.
Et j'étais souvent le deuxième, le second à avoir la blessure. Donc c'était un gros avantage, hein, parce que ça me mettait une petite vision sur l'avenir et ça permettait de faire plus attention à certaines choses. Malheureusement, c'était Damien qui trinquait en premier à chaque fois et moi, je réussissais à passer à côté parce que je m'arrêtais à temps.
T'es en train de nous dire qu'en fait, Damien, c'est le brouillon. C'est ça, on teste des trucs. Voilà,
c'est le témoin, c'est la valeur faite.
C'est ça, c'est le goûteur.
Peut-être parce que son niveau est légèrement inférieur et vu qu'on fait toutes les séances pareilles, et ben, il y a un certain moment où c'est lui qui devient limite plus rapidement.
Ouais, ça c'est intéressant, Florence. Voilà. Ils sont jumeaux, ils sont évidemment différents, mais il y a peut-être quelques similarités dans la morphologie et dans l'organisme.
C'est,
quoi.
C'est sûr, parce qu'il y a forcément cette similarité morphologique et puis dénominateur commun aussi autour de la planification de l'entraînement. Donc en fait, les facteurs qui peuvent influencer la blessure qui restent différenciables, ça va être ce à quoi ils sont confrontés dans leur vie familiale, sociale, mais j'allais dire que tant que même ces facteurs-là sont lissés, on pourrait imaginer qu'ils ont exactement le même potentiel de risque de se blesser. Alors c'est vrai que si on imagine que l'un est papa avant l'autre ou que l'un a des contraintes professionnelles un petit peu plus exigeantes que l'autre, qui entraîne un sommeil moins important, à ce moment-là, il peut y avoir des singularités dans la prédisposition à se blesser. Mais tant qu'ils ont la même vie, le même entraînement, qui mettent la même essence dans le moteur et qu'ils ont les mêmes dépenses en termes de planification d'entraînement, on pourrait imaginer qu'on n'est pas loin du copier-coller quand même.
Et ouais, c'est quand même assez dingue, hein, de voir à quel point ils arrivent à être au haut niveau et à quelques similarités comme ça, s'il y en a un qui a mal quelque part, l'autre qui est vigilant, qui se dit attention, j'ai l'exemple à ne pas suivre, faut que je me méfie. On le disait, Michael, tu sors d'une magnifique performance, 10e des championnats d'Europe, l'équipe de France qui a terminé au pied du podium 4e. D'ailleurs du classement par équipe, Nicolas Navarro a fait 5e, tu fais 2e français. On avait parlé d'ailleurs avec Johan une semaine après cette course de déroulé de ces championnats d'Europe et Johan nous avait dit il y avait des coureurs prudents entre guillemets dont je faisais partie. Johan, tu en fais partie, Johan, et tu m'as dit en revanche ouais Michael lui il a pris, c'était une course à risque quoi, il savait qu'il voulait, il pouvait faire quelque chose, il a pris les risques. Il a longtemps tenu d'ailleurs le groupe de tête, hein, Michael, tu vas pouvoir nous le dire. Et puis après, t'as fini par un peu cramper, il me semble, mais la performance globale est quand même largement réussie, Michael.
Ben, j'ai essayé d'écouter les conseils de mon coach en début de course, parce qu'on avait, on avait des conditions météo assez difficiles, même si au final, le jour de la course, il a fait moins chaud que prévu. Ouais, ils annonçaient autour des 30 degrés, c'est devenu orageux. On a eu 23, mais c'est déjà beaucoup pour un marathon. Et le fait d'avoir une préparation assez assez courte en fait, avec plusieurs choses que je n'ai pas pu travailler à l'entraînement, comme du renforcement musculaire, etc. J'arrivais un peu dans le flou au niveau des sensations sur la course, et mon entraîneur me conseillait d'être prudent. Donc je suis parti quand même un petit peu en retrait. Je suis pas parti aux avant-postes dès le début, et puis j'ai pu remonter assez rapidement et au semi me retrouver dans le groupe de tête que j'ai accroché jusqu'au 33e kilomètre, et avec des super sensations physiques et mentales. J'avais vraiment les jambes qui tournaient bien, dans la tête j'étais costaud, et je pensais même pouvoir jouer le sprint pour une médaille, hein. Ça me paraissait pas impossible de pouvoir être sur le podium. Et jusqu'au moment où j'ai une première crampe qui est apparue sur un ischio du côté droit, et là ça m'a fait ralentir de presque 20-25 secondes. Je suis passé de 3,05 au kilomètre à presque 3,30. Donc l'impression de continuer en footing, mais pas pouvoir tenir mon allure à cause de ces crampes en fait. Et puis bon, après, par la suite, les sensations sont un peu revenues. J'ai pu finir sur du 3,20, du 18 km/h, mais en perdant quand même beaucoup de temps sur le groupe de tête, et j'arrive 2 minutes derrière. Donc ça c'était très frustrant d'être dans cet état de lucidité, de forme physique, et de pas pouvoir tenir
parce
le groupe à cause de crampes.
Ouais. 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 Là c'est frustrant,
mais bon, ça
parce
fait partie
c'est...
du jeu.
Ouais.
Hein. Je pense que je suis pas le seul à avoir ce problème-là, et c'est quelque chose à travailler à l'entraînement. C'est comme ça fait partie de la course.
Et bah tiens, ça c'est intéressant d'avoir votre ressenti, parce que ça peut arriver à tous ceux qui nous écoutent qui sont sur marathon, qui visent un chrono, la crampe à l'ischio. Est-ce qu'elle a une explication? C'est forcément le manque d'hydratation?
Non, c'est pas forcément que l'hydratation, mais c'est la fatigue musculaire, c'est un manque de renforcement sur cette zone-là. Surtout que, enfin, Mickaël, il le sait, puisque ça lui est déjà arrivé à Paris quand il fait 2h10, malgré tout, il avait déjà eu ce petit souci-là. Donc il sait que ça peut être une problématique pour aller un peu plus vite, ou s'il arrive à régler ce problème de crampe, comme il le dit, il est au sprint avec les premiers. Donc il sait que lui, ce qu'il doit travailler maintenant sur son prochain marathon, c'est certainement ce renforcement des ischios pour éviter ça.
Mickaël, tu veux un rendez-vous médical avec Florence pour en parler, du coup?
Oui, ça peut se faire.
Florence, est-ce qu'on a une explication scientifique?
mais je crois que celle que vous en donnez, elle est juste excellente. Hein. Déjà, il faut quand même savoir qu'on n'est pas égaux, qu'il y a des gens qui vont être fragiles et qui vont être sujets aux crampes, et d'autres qui ne le seront jamais. Ça fait un peu partie de ce dont on a hérité. Et comme dans beaucoup de situations, choisir ses parents, c'est quand même vachement important. Et puis...
faut pas se tromper.
Mais c'est vraiment,
on
c'est
peut
vraiment
changer.
Ça.
Hein.
Ce qui était dit, c'est vraiment bien. L'idée, c'est la crampe, ça n'a rien à voir avec l'hydratation, ça n'a rien à voir avec le manque de sodium, ça n'a rien à voir avec toutes les croyances qu'on peut véhiculer. C'est essentiellement de la fatigue de la commande neuromotrice. Donc en fait, c'est cette fatigabilité qui, à un moment donné, va faire que le système qui permet de dépolariser pour pouvoir contracter et contracter le muscle va être défaillant. Et cette fatigue de la commande motrice va entraîner une absence de capacité à se relâcher du muscle. Donc effectivement, c'est essentiellement l'entraînement qui va permettre de repousser le seuil d'apparition des crampes.
Et voilà, pas de regret du coup au niveau de l'hydratation, Mickaël. Voilà,
non.
Non, je pense d'ailleurs que mon hydratation était optimale sur ce marathon, et je suis entièrement d'accord que c'est un problème de jonction neuromusculaire, et que c'est quelque chose qui peut se travailler à l'entraînement sur du renforcement musculaire, et pourquoi pas potentialiser le renforcement par de l'électrostimulation. J'avais regardé quelques études là-dessus et ça a l'air de fonctionner, donc une piste à creuser pour les prochains marathons.
Parfait, ça fera 45€ avec la prise en charge de la carte vitale.
Oui, voilà, puis j'allais dire, sinon tu testes sur ton frère avant de
commencer. Voilà. Oui, on l'a dit, c'est brouillon, d'ailleurs. Il n'est pas là, on en profite, on lui tape dessus. Voilà, tu testes sur lui et puis après tu verras bien. Hein,
ouais. Bon, je vous dirai, j'ai essayé, je vous dirai les résultats.
Juste avant de passer à la séance, Mickaël, question toute bête, mais quels sont tes objectifs dans les semaines, les mois et les années à venir? Est-ce que toi aussi, comme Durance.
Il veut retourner au marathon des sables.
Ah, peut-être!
Ça m'arrange.
Ouais. Un concurrent de moins, crack.
Un concurrent de moins. Mickaël, enfin les sables et tout, ça t'attire.
Non, il y a trop d'enjeux là dans les prochaines années.
Et ouais, donc c'est évidemment
trop
2024.
Trop de belles choses à faire sur le marathon.
Objectif 2024, voilà, en exactement. Tête et rien d'autre, j'imagine.
Ah, c'est bien.
Ouais, comme Johan. Objectif 2024 comme beaucoup
des JO à la maison, je pense qu'on est
marathonien français,
les...
il va y avoir voilà. Il va y avoir de la concurrence.
Ah, il y a une densité exceptionnelle au niveau de l'équipe de France masculine de marathon. Et ouais, ça va être un beau défi. Alors, on l'a déjà rappelé, mais on peut le rappeler à ceux qui nous découvrent et qui nous écoutent sur cet épisode. Le mode de sélection, il y aura 3 coureurs retenus. Il y a une période de chrono à établir qui va s'ouvrir. On n'a pas encore la date d'ailleurs, Johan. Et évidemment, les 3 meilleurs chronos pourront aller défendre les chances françaises à Paris en 2024, c'est ça ?
Ouais, sous réserve d'avoir réalisé un minima demandé par la fédération qu'on ne connaît pas pour l'instant, on a zéro.
Mais ce ne sera pas plus de 3 quoi qu'il arrive.
Non, c'est sûr qu'il n'y aura pas plus de 3.
Et il n'y a pas d'histoire d'arrangement, on veut faire passer celui-là avant celui-là, non, c'est vraiment le chrono qui compte.
Normalement, non.
Et voilà, bataille à armes égales. Voilà.
Exactement.
Il faut être le plus performant. Et oui, dernière anecdote qu'on n'a pas encore signalée avant de passer à la séance. T'es complètement dingue, Mickaël, parce qu'avec ton frère, tout juste la vingtaine passée, t'es parti sur le marathon des sables avec tes potes de ton club de l'époque. C'est là où Florence t'a découvert d'ailleurs, parce que Florence y était aussi sur ce marathon des sables, course de 6 jours dont on a déjà parlé. On y a consacré un épisode il y a quelques mois. Et tu termines meilleur français quand même, première participation, t'y vas. T'as 22 ans, tu fais meilleur français devant des trailers de haut niveau. Bah, un mot quand même de ton souvenir de cette expérience. C'est pas forcément ta spécialité, là où tu t'es éclaté le plus, mais j'imagine que le souvenir est incroyable quand même.
Ben oui, au début ça devait être juste des vacances sportives et une coupure dans la saison pour faire autre chose que de la piste ou des crosses pour aller voir ailleurs, découvrir le désert marocain, c'était essentiellement ça, et puis passer du bon temps avec les copains du club. Et puis forcément on a un esprit compétitif, et arriver sur une course comme ça avec des étapes, des chronos à chaque étape, on s'est vite pris au jeu. Et puis sur moi essentiellement parce que mon frère il sortait d'une fracture de fatigue, donc il n'était pas au top, mais moi je voyais que chaque jour je montais dans le classement, donc je me suis dit il y a quelque chose à jouer et une place de premier français à aller chercher, donc je suis allé jusqu'au bout.
Florence, c'est une course que tu adores, tu as découvert donc Mickaël cette année 2014 où il fait 8e au scratch quand même, premier français 8e au scratch. Quel souvenir tu gardes de cette perf complètement hallucinante? Alors,
ouais, moi, je me souviens. Alors, c'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup, ces courses en autosuffisance, parce que justement, ce que je trouve vraiment chouette dans ces courses-là, c'est que c'est pas le meilleur athlète intrinsèquement qui peut sortir son épingle du jeu, mais c'est aussi celui qui sait bien gérer son alimentation, bien gérer son hydratation, qui peut dormir n'importe où. Enfin, tu vois, t'as plein d'autres facteurs qui font que quelqu'un qui est pas surdoté d'un point de vue physique peut aussi avoir une belle expérience et peut bien performer au marathon des ça. Donc c'est ce format-là que j'aime bien aussi. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, c'était ma première course en autosuffisance. J'en ai refait d'autres après qui m'ont confirmé mon appétence pour ces formats. Et je me souviens avoir vu ces deux frangins tout jeunes. Je me disais, non, mais ils sont en train de se cramer les ailes. Pourquoi ils font des trucs si longs? Il faut qu'ils fassent du court et tout. Ouais. Il faut qu'ils restent. Et en même temps, il y avait quand même ce côté. Ils avaient déjà ils attiraient déjà l'affection. Et l'admiration. Donc moi je me souviens vraiment d'une belle image qui transportait.
Mais Mickaël et Damien ont fait les championnats de junior de course en montagne, c'est-à-dire ça a été des gens qui ont touché à tout.
Ouais, c'est ça, des touches à tout.
Tout jeunes, ils se sont pas spécialisés comme moi j'ai pu le faire, ou en faisant vraiment que du spé piste pendant 15 ans.
Mais c'était par choix, c'était pourquoi vous avez fait ça, par envie de découverte du coup?
Parce qu'on aimait la découverte, on aimait tout, on aimait voir un peu ce qui se passait un peu partout sur les différentes épreuves, et puis notre coach était un peu dans cet état d'esprit à l'époque, donc ça nous a vite amené à faire de la route, du cross, de la piste, de la montagne, de l'ultra trail. C'était peut-être des fois un petit peu trop, mais en même temps c'était ce qui nous faisait plaisir, donc ça aurait été difficile de se concentrer uniquement sur la piste, et je pense qu'on a, ça nous a apporté une belle expérience, et notamment pour le marathon. Maintenant, on a plein d'anecdotes sur certaines courses et des erreurs qu'on a commises, et c'est des choses qu'on ne va pas reproduire sur le marathon.
Et pour conclure, on a rarement vu des gens qui portaient aussi mal leur nom de famille.
C'est vrai qu'ils ne sont pas, sont pas gras.
On va les appeler secs.
Ah ouais.
Damien, Mickaël, c'est dingue. Bon. Allez, passons tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Vraiment pas choisi les beaux parents, c'est pas possible.
Bref, d'après certaines études scientifiques, monsieur Durand, près de 50% des coureurs subissent au moins une blessure chaque année. Alors, on a une mauvaise nouvelle dans l'opération Niskan, je vous l'ai dit malheureusement dans le sommaire. Je vous rappelle qu'on accompagne 4 runners jusqu'au marathon le 30 octobre. Alix, Elodie, Julien et Louis, ils ont 4 objectifs bien différents. Et la mauvaise nouvelle de la semaine, elle est pour Alix malheureusement. Alix qui connaît bien la distance du marathon, qui espérait passer sous la barre des 4 heures, qui avait même un objectif perso en 3h50, et elle s'est blessée, malheureusement, à un peu moins de 6 semaines de l'objectif. Elle a tenu à nous laisser un message cette semaine. Écoute, Johan, tu découvres, hein, au moment où je te parle, là, ouais, cette nouvelle. Donc, on va l'écouter et on pourra en parler après avec ce thème de la gestion des blessures.
Hello toute l'équipe d'RMC Running, c'est Alix. Je suis désolée, j'ai pas pu être avec vous aujourd'hui. Mais je tenais à vous faire un petit audio. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer l'aventure du marathon Niskan. Je verrai pas non plus Johan Durand sur son jet ski. Je suis victime d'une fracture de fatigue et je suis arrêtée pour 45 jours minimum. Donc voilà, ça arrive à mi-octobre, donc incompatible avec le marathon. Voilà, c'est une douleur qui est apparue il y a 15 jours pendant ma sortie longue. C'est vrai que j'ai un peu mise de côté au début et au final elle est réapparue plus après en retestant un peu un mini footing de 15 minutes. Et les dernières analyses et IRM montrent une fracture de fatigue. Voilà, je vais pas forcer évidemment, c'est pas les conseils des médecins. C'est compliqué psychologiquement de se dire qu'il faut arrêter le programme et ne pas aller au bout de cette aventure. Mais il faut savoir écouter son corps. Et je pense que ça serait un des bons conseils de Johan. En tout cas, merci à toute l'équipe. Un grand merci pour ce début d'aventure et cette opportunité. Malheureusement, les blessures, c'est aussi les risques d'une prépa. Voilà, donc merci encore, merci pour ces rencontres et je vais continuer à vous écouter et à suivre les aventures de Julien, d'Elodie et de Louis jusqu'au marathon. À bientôt.
Et voilà, on l'embrasse fort, on pense à elle évidemment, ouais. Alix, parce que on sait comme c'est obsédant une préparation marathon et de devoir abandonner à cause d'une blessure, c'est toujours un moment déchirant. Forcément, ça parle à tout le monde, ça parle à toi, Johan, ça parle à Florence, ça parle à Mickaël qui est avec nous. Bah, Florence, toi qui es kiné, ce sont des situations que tu dois rencontrer tous les jours et on sent la détresse dans la voix d'Alix, quoi. On est touché par elle parce que c'était un vrai objectif de sa saison. Elle était ravie d'avoir gagné ce beau cadeau et là, elle doit s'arrêter. La fracture de fatigue, déjà, quelles sont les explications et il n'y a pas d'autres possibilités que de s'arrêter et de se reposer, quoi, malheureusement.
Je ne serais pas aussi catégorique. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Dans le sens où, dans les fractures de fatigue, on a des fractures à bonne évolution et on a des fractures à mauvaise évolution. Les fractures à bonne évolution, c'est des fractures qui spontanément vont évoluer assez favorablement. Et moi, j'engage des gens qui ont des douleurs dans ces zones-là. Donc, on va parler de la crête tibiale postéromédiane, on va parler de la diaphyse du deuxième méta, on va parler, par exemple, de la partie inférieure du col fémoral, de la diaphyse fémorale. Tout ça, c'est des fractures qui ont une bonne évolution. Et spontanément, j'engagerai pas les gens à faire des imageries. Pourquoi ? Parce que souvent, l'imagerie va avoir un rôle nocebo et qu'on va surprotéger et surinvestir cette pathologie. Et
alors, pour expliquer, ouais, ça veut dire que, pour vulgariser, pardon, si on se rend compte, ouais, de la blessure que l'on a, ça va avoir ouais, un effet nocif, quoi. Psychologiquement, alors, ça va nous mettre dans
Le voir sur l'imagerie, des fois, ça va contribuer, voilà, à d'accord, pas faciliter la cicatrisation, ouais, parce, ouais, qu'on va être focalisé dessus, parce qu'on va avoir des conseils de gens, peut-être absolument pas mal intentionnés, mais un peu moins avertis, qui vont dire, ah non, ça c'est une fracture de fatigue, il faut absolument du repos complet. Or, sur certaines fractures de fatigue à bonne évolution, bien évidemment, on décharge, bien évidemment, on court pas sur une fracture de stress, mais une fois qu'on a plus mal à la marche, on peut recommencer à courir et souvent l'imagerie ne corrobore pas avec ces symptômes-là. C'est-à-dire qu'on peut recommencer à courir même si parfois à l'imagerie il y a encore quelques stigmates de cette fracture. Donc pour les fractures à bonne évolution qu'on sait répertorier, je dirais qu'il faut être beaucoup plus symptômes guidés que imagerie guidée. Et puis par contre, pour les fractures à mauvaise évolution, comme la base du deuxième méta, la styloïde du cinquième, la malléole latérale, etc., ouais. Bah, là, on va plutôt être assez précautionneux dans le repos conservateur. On va décharger beaucoup plus, on va être plus lent dans la réexposition, et effectivement, là, l'imagerie sera importante parce qu'elle va déterminer une suite de prises en charge différentes.
Alors, parlons du ressenti des coureurs de haut niveau, donc Mickaël et Johan qui sont là. Johan, on a suivi ton année qui a été un petit peu délicate liée à ses blessures. Ça avait démarré très fort, tu avais battu ton record sur 10, je me rappelle, au début de l'année,
c'est ça.
Là, tu étais vraiment en pleine bourre. Et puis après, les pépins sont arrivés. Déjà, comment tu les as identifiés? Comment tu l'as senti? Et puis, est-ce que tu en souffres toujours? Alors que là, on est quasiment vers l'automne, quoi, la fin de l'année.
Non, moi, j'avais commencé avec une douleur au tendon d'Achille. En février, et du coup j'avais une petite douleur, comme l'a expliqué Florent, j'avais une petite douleur, sauf que je me suis dit bon, j'ai quand même mon objectif, c'est le mois d'août, j'ai le temps, cette petite douleur, je veux quand même voir
objectif,
ce que j'ai.
Les Europes,
c'était les Europes, j'étais déjà qualifié. Donc je me suis dit, si je dois me soigner, c'est maintenant. Donc je passe une imagerie, et là on s'aperçoit que j'ai une fissure de 1,5 cm sur le tendon, alors que j'avais, à mon sens, j'avais mal, mais j'avais mal à 2 sur 10. Tu vois, je pense que si j'avais eu une compétition en avril ou en mai, j'aurais largement pu continuer à m'entraîner sur cette douleur-là.
Mais toi,
alors
qui as déjà eu pas
papier,
mal de...
c'était quand même assez sale.
Toi qui as déjà eu pas mal de douleurs dans cette zone, tout de suite ça t'a alerté,
ouais,
ça t'a fait peur.
Je me suis dit, j'ai pas envie de m'entraîner comme ça pendant 3 mois à galérer. C'était une douleur que je connaissais. J'avais le temps parce que mon objectif était assez éloigné. Donc je me suis dit, je vais me soigner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des injections de plasma de PRP dessus, et du coup ça m'a soigné. Et après, bon, c'est une deuxième blessure qui est arrivée, qui s'est greffée une fois que j'avais plus de douleur au niveau du tendon d'Achille. Je me suis bêtement cogné le genou,
mais qui n'a rien à voir,
qui n'a rien à voir. Et là, c'est lié à un choc, et donc là je galère depuis 2 mois avec une douleur au genou qui est uniquement liée à un choc et à un trauma qui m'a enflammé la zone du genou. Et du coup, ça, j'ai du mal à le faire passer. Mais comme on l'a dit, tout à l'heure, des fois, on passe des images qui révèlent, soit des grosses douleurs, enfin, des douleurs qu'on n'a pas forcément ressenti, quoi.
Bah, t'es rarement rassuré par une image. C'est plutôt,
catastrophique. C'est plutôt l'inverse,
Ouais, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que il y a des manifestations dégénératives ou des modifications structurelles qui apparaissent même chez les gens qui ont pas mal. Et donc, en fait, l'image, elle nous dit pas grand-chose. Et des fois, elle nous dit pas si la douleur, elle est en rapport avec ce qu'on peut observer. Donc, faut toujours prendre un petit peu, avec un peu de recul, la notion d'imagerie, la notion d'examen complémentaire, parce que si, dans certains cas, effectivement, ça peut être extrêmement important et ça peut nous faire prendre des décisions en lien avec cette constatation-là sur le traitement à venir. Puis des fois, ça nous dit pas grand-chose de plus. Là, en ce moment, je suis en train de donner un cours sur les rachialgies, les lombosciatalgies à Lyon. Et il y a un jeune participant qui vient me voir, me dit, je comprends pas. J'ai un patient, il a une sciatique à droite et il a une imagerie de dernier discale à gauche. Qu'est-ce que je fais? Ça nous dit haut et fort qu'elle est pas pertinente et qu'on s'en fout. Mais quelque part, le patient, il a cette image-là et limite, ouais. Ça va diminuer sa capacité de récupération à droite parce qu'il sait qu'il a une hernie discale à gauche.
Oui.
Donc,
ça vient de l'inconscient.
De la surinvestigation.
D'accord.
Exactement. Et en France, on est dans un système médical où on surconsomme un petit peu les investigations. Et des fois, faut plus faire confiance à la clinique. Et je crois qu'il y a des gens extrêmement bien formés en termes d'expérience clinique qui peuvent être drôlement pertinents.
Alors, parlons-en avec Mickaël. Tu le disais, toi, Johan, en introduisant sa présence aujourd'hui. Mickaël, toi aussi, tu as connu pas mal de blessures dans ta carrière. Est-ce qu'il y a des zones plus touchées que d'autres? Et est-ce que toi aussi, du coup, tu es très attentif à la moindre perturbation?
Moi, mon problème essentiel dans ma carrière, ça a été une pubalgie qui m'a fait traîner des douleurs d'insertion aux adducteurs unilatérales pendant un certain temps.
C'est très vicieux, une pubalgie.
Plus de 2 ans, et qui m'a dit, je pense, à cause des douleurs, modifié mon schéma de course avec des répercussions encore aujourd'hui, même si j'ai été opéré au bout de 2 ans de douleurs et de soins et plusieurs périodes de repos qui n'ont pas suffi à régler les problèmes. Donc, bon, suite à cette chirurgie, les douleurs ont disparu, mais il y a toujours un peu cette perturbation du schéma moteur et puis un petit déséquilibre, je pense, musculaire, parce que j'ai quand même eu une ténotomie sur les adducteurs, c'est-à-dire que, comme si, enfin, j'ai un tendon d'adducteur qui a été coupé par le chirurgien, donc forcément, il y a une faiblesse d'un côté, il y a des rétractions tissulaires suite aux cicatrices de la chirurgie. Donc,
mais c'est plus une blessure de footballeur que de coureur.
J'en entends parler de plus en plus souvent dans la course, et oui, c'est quelque chose qui se répand pas mal. Ouais.
Et oui, avec les
sauts de haies, la propulsion.
Ah ouais. Florence, l'important c'est quoi alors quand on se blesse? C'est d'identifier parfaitement ce qu'on a pour déterminer une durée d'arrêt et de repos. C'est ça l'essentiel déjà quand on se blesse?
Ouais, je pense que quand on se blesse, c'est déjà de s'écouter. Et effectivement, à ce que disaient les uns et les autres, c'est à un moment donné, faut pas forcer sur de la douleur. Alors, on est d'accord que en course à pied, c'est juste quand même un peu normal d'avoir mal.
Oui. Voilà.
Mais il y a des douleurs qui sont normales en lien avec l'entraînement. Puis il y a des douleurs où on sent qu'on est en train de se faire du mal. Donc, c'est déjà être suffisamment aguerri pour pouvoir reconnaître ces douleurs-là et pour pouvoir lever le pied à partir du moment où on ressent ces stigmates. Là. Et puis après, je crois que c'est vraiment d'aller consulter des gens dont c'est l'expertise. Moi, j'ai vraiment coutume de dire que même moi, en tant que coureuse, j'irai pas consulter un doc, un kiné, un ostéo qui est pas coureur. Parce qu'il y a quand même des spécificités en lien avec notre pratique, en lien avec la privation de notre pratique. Il faut quand même aussi comprendre que comment la tête d'un coureur à qui on a enlevé la substance licite qu'il a tous les jours ou 4-5 fois par semaine.
Bah, il faut se tourner vers la drogue dans ces cas-là. Il faut commencer à boire.
Donc en fait, je trouve que c'est vraiment important d'avoir affaire à un thérapeute qui connaît, qui a une expertise dans la prise en charge des pathologies du coureur et qui connaît la sensation de manque que peut avoir un coureur.
Alors,
parce qu'à partir de là, il pourra aussi l'orienter vers des activités de transfert qui vont aussi potentialiser quelque part sa cicatrisation.
Et prolongement de question qui va être intéressant. D'ailleurs, je sais que toi, tu l'as fait, Johan, parce que je t'ai suivi, évidemment. Est-ce que c'est important, lorsqu'on est blessé et qu'on ne peut plus pratiquer la course à pied, de maintenir une activité physique, faire travailler un peu le cœur, faire du renforcement musculaire? Est-ce que tu le conseilles, Florence, ou est-ce qu'il faut vraiment voir la pathologie dont on souffre déjà?
Ouais, franchement, alors c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra quand même avoir un diagnostic assez précis, même si dans certains cas, on peut avoir un diagnostic non spécifique qui pourra être pris en charge de façon pertinente par un professionnel de santé. Mais c'est sûr qu'il faut avoir un diagnostic, mais c'est évident qu'il faut continuer à travailler sa physiologie pour ne pas perdre tous les acquis physiologiques qu'on a eus grâce à l'entraînement. C'est sûr qu'il y a sûrement plein de choses qu'on peut faire en termes de renforcement musculaire. Puis j'allais dire, c'est aussi vital pour sa famille. C'est qu'il faut à un moment donné que si on ne veut pas se faire mettre dehors, il faut qu'on
lâcher
reste
la soupape,
supportable.
Quoi.
Et voilà, il faut quand même encourager une activité de transfert. Puis moi, une autre chose à laquelle je crois profondément, c'est que quand on fait du cardio, alors qui n'exacerbe pas la blessure, quelque part, on vient aussi alimenter en fertilisant les processus de la cicatrisation. Hein, c'est un petit peu
D'accord.
comme si on mettait de l'engrais sur ce qui va nous aider à cicatriser. Donc certainement, c'est une grosse valeur ajoutée.
Parce que typiquement, toi, Johan, tu as pratiqué beaucoup de vélo quand, à partir du moment où tu t'es blessé.
Oui, non, mais après, c'est parce que j'avais des objectifs à court terme ou à moyen terme.
Ah, tu l'aurais moins fait si tu n'avais pas eu d'objectif, tu penses?
Peut-être pendant 15 jours, je serais resté allongé à me dire moins j'en fais, mieux je vais me guérir et tout ça. Alors que, comme elle l'a dit, c'est peut-être une erreur et que c'est sûr qu'en gardant une activité sans créer de traumatisme sur la douleur qu'on a, comme elle l'a dit, on alimente un peu la régénération. Et moi je fais les sports portés, le vélo ou la natation, je m'oblige à y aller pour travailler le cardio et pour pas perdre, parce que en course à pied, on le voit vite, hein, quand on coupe 15 jours, déjà 15 jours sans faire de cardio ou de fractionné, vous repartez pas à zéro, mais pas loin.
Ouais, Florence, du coup...
Tu sais, la meilleure activité en termes d'entraînement de croisé, quand on fait de la course à pied et pour continuer à garder ses qualités physiologiques sans exacerber la blessure, c'est l'aquajogging. C'est l'activité la plus chiante qui puisse exister.
J'ai levé les sourcils, je t'avoue.
Zéro intérêt.
Mais...
Mais en même temps, tu as quand même vraiment des études qui montrent que quand tu as des athlètes avec, qui avaient fait un certain temps sur 5 km, leur PB sur 5 km, à 6 semaines après des séances d'aquajogging, ils restent sur le même PB. Donc c'est quand même, ça prouve que c'est quand même vachement intéressant. Alors que même, je pense que si tu faisais du vélo, tu gardes pas le même personnel best sur 5 ouais, km.
Pas le même
donc,
c'est
exactement. Donc l'aquajogging, c'est vraiment top.
D'accord.
Mais c'est vraiment insupportable.
Ah ouais, Mickaël, tu cours dans ta piscine ?
Ouais, ça m'arrive. Hein. C'est vrai, moi je. Je trouve que c'est une activité qui est vraiment bien pour compenser l'absence de course en période de blessure. Et puis, je pense qu'en fait, ce qui est important dans l'entraînement, c'est de varier les activités. Et puis, c'est ça qui peut aussi aider à la progression.
Ouais. Et l'importance de la progressivité aussi. On avait déjà parlé avec Florence, ouais. Mais ce que tu nous avais dit, Florence, le principal facteur de blessure, c'est trop vite, trop fort. Hein. Je crois que c'était ça. Donc.
C'est ça. Trop vite, trop fort, trop tôt. Ouais, voilà, exactement. Ça. Donc, mais ça revient au même. Ouais, absolument.
Alors.
Et ça vaut dans la reprise post-blessure.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, j'allais en parler, mais juste, est-ce qu'il y a des règles de base ? Est-ce qu'on peut se dire que, je sais pas, je fais une sortie, je me fais un claquage musculaire au mollet. Est-ce que je peux me dire, bon, bah là, c'est 4 semaines. Voilà, 4 semaines, je fais rien. Là aussi, ça dépend, chaque individu est différent, Florence.
Oui, il y a des règles de base qui sont faites un petit peu sur des degrés de gravité, par exemple sur une lésion musculaire. Après, il y a quand même aussi des spécificités, et moi j'aime bien citer, quand je donne cours, Ludovic Huimetz, qui est médecin du Stade Rochelet, donc ah rien oui. à voir, hein, médecin du rugby du Stade Rochelet, si ce n'est que c'est un bon coureur, un bon trailer, et du coup, je me souviens que la dernière fois que j'avais croisé Ludo, il me disait, moi, le jour où j'ai besoin de me faire un PRP, je me fais injecter du sang fidjien, quoi. ils ont des capacités de cicatrisation qui sont juste hors normes. Bon, ils sont hors normes tout court, on est d'accord.
Gabarit de 140 kilos qui court 10 secondes au 100 mètres.
Ouais, c'est ça.
Déjà,
c'est ça. Donc, tu vois, tu as quand même des spécificités en lien avec, là encore, hein, avec qui t'es, ta génétique, etc., qui font que certains vont cicatriser vite, certains un petit peu moins vite. Puis, tu as l'âge qui joue aussi en ta faveur aussi. Plus tu vieillis, moins tu vas bien cicatriser. Ton hygiène de vie, c'est sûr que quelqu'un qui... Alors, bon, en principe, un coureur n'est pas fumeur, mais quelqu'un qui a beaucoup fumé va très clairement avoir des capacités de cicatrisation très amoindries par rapport à quelqu'un qui a cultivé le cardio et une hygiène de vie un petit peu plus rigoureuse. Donc, tu as des règles. Mais en même temps, tu as beaucoup de mesures et de personnalisation à réaliser avec chaque individu. Puis c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui rend notre profession géniale. C'est qu'avec chaque patient, c'est différent.
Bien sûr. Johan, toi, sportif de haut niveau, qui a connu beaucoup de blessures, mais finalement souvent aux mêmes endroits, souvent le tendon d'Achille, est-ce que tu as une explication ? Est-ce que, avec toutes les personnes que tu as consultées, tu en es arrivé à une conclusion de te dire « c'est peut-être moins un déséquilibre que j'ai dans mon corps » ou est-ce que non, malheureusement, c'est comme ça, c'est une fragilité que j'avais au départ et que j'ai pas pu consolider ?
Non, c'est un peu de tout. Je pense qu'il y a une fragilité de base, de nature, avec un calcanéum qui est un peu mal formé au niveau de mon talon. Mais après, c'est aussi, j'en suis responsable avec le fameux « trop haut, trop fort, trop tôt »
à me surentraîner. Piste, beaucoup de pistes.
Ouais, beaucoup de pistes. Et puis, un manque d'étirement de la chaîne postérieure. Du coup, une raideur un peu des ischios et des mollets qui vient tracter sur le tendon. Des choses comme ça. Et puis, beaucoup de pistes, beaucoup de séances un peu lactiques, des trucs qui t'engorgent les muscles et tout ça, qui tirent vachement sur les tendons. Et donc voilà, je pense que ça c'est une partie de ma problématique à moi. Et puis que je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant de sauter le pas de l'opération, parce que c'était une douleur un peu sournoise, hein, les tendinites, des fois elles partent, des fois j'étais tranquille pendant 3-4 mois
pubalgie, hein,
et après
vrai.
Ça revient. Et donc en tant qu'athlète de haut niveau, c'est ton gagne-pain, donc tu te dis je vais pas me faire opérer maintenant parce que j'ai cet objectif là qui arrive dans 2 mois, donc je serre les dents. Puis une fois que t'as passé l'objectif, tu te dis j'en ai un nouveau dans 3 mois, donc tu resserres les dents. Et puis au bout d'un moment, quand tu peux plus, tu décides de te faire opérer. Et moi j'en suis sorti et aujourd'hui j'ai quasiment plus de douleur et je regrette pas l'opération. Mais voilà, c'est des choix à faire dans une carrière, et quand on fait du haut niveau, des fois on a tendance à vouloir toujours repousser l'opération, repousser ci, repousser là, pas prendre le temps de bien soigner pour revenir le plus vite possible. Et souvent, c'est ça les erreurs.
La question qu'on se pose souvent avec vous, athlète de haut niveau, en plus qui faites des distances très longues, je vais te la poser à toi, mais je la pose également à Mickaël. Est-ce que tout simplement, quand vous vous levez le matin, vous avez mal? Vous avez mal quelque part, je sais pas.
Bah, ça, c'est le...
Un peu mal à la cheville, un peu mal au genou, ouais. Un peu...
Ça, c'est la valeur témoin, c'est le réveil.
Est-ce que ça vous arrive, les gars, de vous lever sans douleur?
Ouais. Moi, depuis, enfin, même plus depuis 3 mois que je me suis cogné le genou, là, mais sinon, l'année 2021, pourquoi j'ai perfé, c'est parce que tous les matins, je me levais sans
tous
douleur.
Tous les matins, t'avais pas mal.
J'avais pas mal, alors que j'avais passé les 4 dernières années de ma vie à marcher comme un papy de 70
au début,
ans quand je me réveillais. C'est un enfer chez moi parce que j'ai des escaliers à descendre au bout de, je sors de ma chambre, j'ai des escaliers à descendre.
Eh ben, fais le tour de ton lit.
Ah ouais, parce que, j'avais besoin de 5 minutes pour m'échauffer et d'une grosse rambarde pour me tirer.
Ah ouais, d'accord.
J'aurais dû faire monter un monte-escalier.
Oh là là, les pubs sur France 2, quoi. À 15h. Ah, c'est terrible, quoi. Ah non, bah, tu vas pas arriver là, quand même. Mickaël, toi aussi, le matin, c'est douleur obligatoire ou t'arrives quand même à avoir des matinées plus
en général, c'est des courbatures. Hein. C'est le pain quotidien de se lever avec des courbatures. Mais à partir du moment où on se lève le matin et quand on ressent une raideur, je pense que c'est pas bon signe
c'est
et qu'il faut le prendre en compte tout de suite. Ouais. Hein. Le plus important, en fait, c'est dans la carrière d'un coureur de tout niveau, c'est la prévention et c'est d'éviter la blessure et d'être intelligent sur l'entraînement et de savoir s'arrêter au bon moment.
Et je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'écouter l'excellent épisode qu'on a fait avec Florence sur la prévention des blessures. Voilà justement comment éviter tout ça. Il y avait même Florence, je me rappelle, le système de pas au réveil. Voilà, si vous avez mal au tendon d'Achille, si tous les matins vous faites 3 pas et que vous avez mal, tant que c'est 3, ça va. S'il y en a 5 ou 6, là, commencez à vous dire bon, aïe. C'est bizarre. Voilà, exactement. Dernière question pour vous, elle nous vient d'Alix qui nous a laissé un message. Elle a quand même posé une question. Ça reste une guerrière et une runneuse motivée. Elle vous demande tout simplement, Johan et Florence, elle garde quand même cette motivation. Est-ce qu'elle peut envisager, pourquoi pas, la participation au semi-marathon? Parce que c'est un marathon qui est découpé en deux. Est-ce qu'elle peut, pourquoi pas, viser le semi de Niskan ou est-ce que ça sera trop tôt, quoi qu'il arrive, à votre avis?
En fait, moi, ce que j'aurais envie de répondre, c'est déjà que tu puisses lui donner mon numéro de téléphone, sans aucun souci.
Allez, c'est fait.
Et puis, la deuxième chose, c'est je voudrais savoir où est située sa fracture de stress, parce que ça va clairement déterminer si c'est à bonne ou à mauvaise évolution. Mmh. Et si c'est une fracture de stress à bonne évolution, franchement, oui.
D'accord.
Si c'est du genre diaphyse du deuxième méta, donc milieu du deuxième métatarse,
ouais.
Je pense qu'il faut qu'elle continue, il faudra qu'elle lui adapte son entraînement avec du sport porté, mais je pense qu'effectivement, elle pourra participer à un semi-marathon. En tout cas, ça vaut le coup de le tenter.
Okay.
Sans prendre de risques et sans se dire que c'est parce que c'est la course de sa vie ou qu'elle va jouer ses minima olympiques sur cette course-là. Mais l'idée, c'est de le tenter en toute sécurité. Hein. C'est pas pour jouer les cavaliers ou les cow-boys en quoi que ce soit. Si c'est une fracture à mauvaise évolution, là, je serais plus timoré.
Alors, on investigue rapidement dans l'équipe d'RMC Running.
Ouais, ça va vite. Hein.
Là, j'ai l'IRM, le résultat de l'IRM d'Alix, donné la conclusion. Fracture de fatigue du calcanéum avec un œdème osseux étendu.
Alors, le calcanéum, c'est pas une fracture à mauvaise évolution.
Ah
L'œdème osseux est un petit peu plus embêtant. Parce que c'est une adaptation qui est un petit peu plus lente. Donc j'irais plutôt quand même avec de la prudence.
D'accord.
De toute façon, en déchargeant complètement là pendant 15 jours. Et puis, voir si dans 15 jours, elle a plus mal à la marche.
Okay.
Bah, ce sera déterminant pour savoir si elle peut recommencer à courir. Mais c'est sûr que tant qu'elle a mal à la marche, on ne commencera pas à courir.
Bon, et ben en tout cas, on va vous mettre en relation. Merci beaucoup pour ta disponibilité, Florence. Ton avis de coach, toi, Johan? Qu'est-ce que tu lui conseilles?
Je laisse la vie médicale trancher.
Je laisse les médecins parler. Ouais. Ouais, bah évidemment, on
non,
a pas
c'est
envie
le plus important. Ouais, c'est la
qu'elle empire sa blessure.
Parce que derrière.
Bon. Il y a un motif d'espoir. On croise les doigts quand même. Pourquoi pas le semi.
L'idée, c'est dans combien de temps elle a plus mal à la marche.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui sera déterminant. Mais par contre, je l'encourage vraiment à continuer à travailler sa physiologie entre temps. Parce que sur un malentendu.
Voilà. Sur un malentendu, voilà.
Et ouais.
Donc puis, au vélo et à la quad jogging. Allez, voilà. Hop.
Sortie de l'épisode.
Exactement.
Le 17 septembre, la course est le 30 octobre. C'est la course contre la montre. On y croit. Et on passe tout de suite au bon plan d'eau.
Mais l'idée, c'est vraiment de pas, encore une fois, c'est pas de la mettre en danger,
non,
ni de prouver quoi que ce soit. C'est vraiment d'être sécuritaire.
Et puis au pire, on envoie évidemment Damien Gras qui lui teste tout. Comme ça, on l'envoie au carton et puis on voit si c'est possible. Voilà. On simule la blessure et puis on fait un truc. Ok, Mickaël, tu nous donnes ton accord ?
Ah oui, moi je suis d'accord.
Hein. Oh, il envoie le frérot à la guerre.
Mais t'as raison.
Avec lui, vous
avez... Bah oui, t'as bien raison. Allez, le bon plan d'Ossard.
RMC. Le bon plan d'Ossard.
Ah, si toi aussi tu as envie de venir défier Mickaël Gras,
ah, oui.
Sur les 20 km de Paris, c'est possible. Eh oui, RMC est partenaire. Alors là, attention. Mickaël, d'ailleurs, je crois qu'en carrière, c'est un de tes meilleurs souvenirs. Je vois un chrono, il y a eu un chrono en 59 minutes, je crois.
C'est un beau chrono. Ouais.
T'avais fait un top 10.
C'était une belle perf, troisième place.
Troisième, ouais. Eh oui, troisième, c'est troisième ça. Avec, il y avait six coureurs kényans, t'avais tenu jusqu'au bout et tout. Oui.
Et il y avait Florian Carvalho qui avait fait premier ou deuxième, d'ailleurs, je ne sais plus.
Ah ouais.
Et j'avais pris la troisième place.
Et voilà, donc voilà. Magnifique course. Juste préciser parce que
c'est une des courses qui m'a révélé, oui, sur la route, un chrono international B, donc oui, une super perf.
Tu connais les 20 km de Paris, toi?
J'ai fait une fois, ouais.
Ouais. Sympa, hein. Bon parcours.
C'est sympa, départ au pied de la Tour Eiffel.
Exactement. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas parisiens, donc je vous le rappelle, top course à Paris le 9 octobre, c'est les plus beaux lieux de l'Ouest parisien. Tour Eiffel, Trocadéro, Arc de Triomphe, Bois de Boulogne, Roland Garros. Fantastique. Vous terminez sur les quais, maison de la radio. C'est vraiment très sympa. Et ce qui est super surtout, c'est que si vous visez un objectif de performance, il y a 23 vagues donc de départ, toutes les 3 minutes. Donc vous n'êtes pas trop au milieu du peloton, quoi. Ouais. Voilà, vous pouvez vraiment établir un chrono intéressant, bonne fluidité, pas de bouchons. En revanche, méfiez-vous, on pourra en reparler d'ici la course, monsieur Durand. Début de course un peu compliqué, un peu faux plat montant.
Ah
et après,
oui,
ça
c'est vrai, c'est vrai.
Ah, il s'en
c'est
souvient,
vrai,
ça y est.
Maintenant, ouais. Ouais, il y a une côte au deuxième kilo,
oui,
assez vite.
En fait, on remonte le long de, enfin, une route qui est juste à côté des Champs-Élysées,
ouais,
pour
des
ensuite
Champs-Élysées,
redescendre et repartir
vers
sur le bois de Boulogne.
Exact.
Vraiment.
Donc là, faut faire un bon échauffement pour pas que la côte, elle nous...
Il est là, le coach.
D'entrée.
Voilà, vous montez un peu le cardio,
montez
parce que
cardio.
Si vous partez à zéro, crac, vous allez être
la côte, elle va faire mal.
Oxydé le début.
Ouais.
Pour candidater, comme d'habitude, message sur nos réseaux sociaux avec votre adresse mail, que ce soit Strava, Instagram ou Twitter. Il y aura un tirage au sort d'effectuer. Je vous le rappelle, 20 dossards à gagner pour les 20 km de Paris, la course qui se déroulera le 9 octobre. Merci, monsieur Durand, d'être monté à Paris.
Eh ben, merci.
Et ouais, merci à nos invités. Merci, Mickaël Gras. Merci d'avoir été là.
Merci à vous pour l'invitation, encore une fois.
Un c'est gros bisou gentil. À Damien, évidemment. On l'invitera une prochaine fois en lui disant.
On va parler de lui.
Hein. Dirai.
Ah, il a les oreilles qui sifflent.
Oh, on lui dira tout le contraire. On dira vas-y, teste sur Mickaël, tout ça, machin. Voilà. Et on remercie Florence Morisseau d'avoir été avec nous encore cette semaine. Merci beaucoup, Florence, d'avoir été là.
Merci à tous.
Ouais, et vous le savez, on a une tradition.
Ah, voilà.
La musique
ça.
De fin.
Parce que. Alors c'est ce que j'ai lu, j'étais en train de lire sur le prompteur.
Alors
là.
Je me désolidarise totalement de ce choix musical. C'est Geoffrey Charpie qui l'a effectué en collaboration avec Mickaël Gras. Voilà, il me dit
non. C'est
Mickaël
qui a choisi
du Joule.
Ça.
Du Joule, c'est pas des LOL. Voilà.
Eh bien écoute, ça m'évoque des bons souvenirs du Kenya avec mon frère et d'autres moments sympas. Donc voilà.
On écoute du Joule au Kenya.
D'accord, putain, Joule partout international. Hein.
Bravo.
Non mais
bravo.
Quand j'ai lu ça venant de Mickaël, je me suis dit c'est pas possible. Il s'est
fais voir si tu maîtrises le signe avec tes mains.
Je ne suis pas que dans ce registre, mais voilà. Là, ça me faisait plaisir.
Eh, bravo, non, mais écoute.
Non, mais j'aime bien Joule aussi.
Voilà, on se motive comme on peut. Voilà. Au moins, ça entraîne. Merci Mickaël en tout cas d'avoir été là. Merci à Florence Morisseau, merci au coach Johan Durand, hein, évidemment.
Toujours là.
La semaine prochaine pour un nouvel épisode d'RMC Running. Et d'ici là, toujours le même conseil. Quand vous courez, souriez coach. Ça aide à respirer. Merci. Salut à tous.
Quand tu es gentil, on te nique. Quand tu es gentil, on te nique. Quand tu es gentil, on te nique.